Alors sur ces panneaux, Monsieur le maire de Gruissan, vice-président de l'agglo, aurait peut-être quelque chose à dire.
Oui, très rapidement, pour aller à l'essentiel. Moi, j'ai le souvenir, il y a quelques années, où il y avait un sous-préfet qui nous avait demandé donc d'enlever tous ces panneaux qui étaient un peu en périphérie, sur les routes. Et assez surpris aussi que vous parliez de ces panneaux. Dans le cœur de la ville de Narbonne, labellisé centre d'art, ville d'art et d'histoire. Et je ne comprends pas que même les services de l'État tolèrent ces panneaux qui fleurissent un peu partout.
Alors, c'était pour des raisons esthétiques et non pas polémique, là. Précisons les choses.
Oui, bien sûr. Alors,
Jean-Claude. Oui, alors nous revenons évidemment à notre sommaire tel qu'annoncé tout à l'heure, avec de la musique, du tango.
Ah oui, c'était, Jean-Claude, c'est alors, quand même, le scoop de la semaine, quoi. Hein. Les bras, en fait, m'en sont tombés et les jambes, alors, complètement cassées, quoi. Hein, quand j'ai lu dans la presse cette annonce faite par. Didier Mouly, non pas une annonce à Marie, enfin presque, annonce à Marie-Hélène.
À Marie-Hélène. Hein,
c'était pas à Marie, presque. La mère de Jésus, c'est une annonce à Marie-Hélène Fabre.
Hein. On est dans l'angélisme le plus total.
Ah non, attends. Didier Mouly, qui soutient Robert Ménard à Béziers, hein, qui gouverne avec la droite à Narbonne, et qui dit dans la presse explicitement Marie-Hélène Fabre. Je voterai pour elle aux élections.
Alors, il ne dit pas exactement qu'il voter pour elle. Non, il ne dit pas exactement. Soyons, oui. C'est une petite interprétation. Bon. Mais il dit qu'il la soutient.
Qu'il la soutient. Bon, il faudra m'expliquer la différence entre soutenir un candidat du PS et ne pas voter.
On peut le prendre comme ça. Hein.
Une sortante, en fait, menacée d'être sortie en juin prochain, et qui plus est, la sortante en question, qui se réjouit de cet appui politique, vraiment aussi surprenant, très compromettant, quand même. Ouais. Alors, j'aurais pu comprendre que Marie-Hélène Fabre recevant ce genre de satisfaction et d'appui, bon, le prenne comme ça, bon, de manière très décontractée, sans forcément l'accepter. Mais là, elle l'accepte. Donc, Dimouli lui tend les bras, hein, elle s'y jette dedans. Dans l'espoir, peut-être, de récolter quelques voix de Nouveau-Narbonne ou de l'électorat Nouveau-Narbonne aux prochaines législatives. C'est une double stupidité, en fait, de la part de Didier Mouly, comme de la part de Marie-Hélène Fabre. Sauf que Didier Mouly, lui, a un intérêt particulier dans cette affaire, parce que c'est évidemment pas pour les beaux yeux de Marie-Hélène Fabre qui tient ce genre de propos. Son problème, sa hantise, sa peur, sa phobie, en fait, à Didier Mouly, c'est que Michel Py, le candidat des Républicains, dont son premier adjoint, dont ses adjoints sont membres des partis républicains, je pense notamment à Jean-Paul César, soit effectivement élu à la députation. Ce qui, dans la famille Mouly, du père comme du fils, avoir un élu appartenant à leur propre clan est considéré comme tout à fait scandaleux, en tout cas inacceptable.
Donc voilà une explication un peu plus...
L'explication du comportement et de la position de Didier Mouly est extrêmement... Cela dit quand même, ce qui est gros, pour ne pas dire comme une maison, mais ni comme le canal de la Robine... Peu de temps avant, Didier Mouly avait interdit à ses adjoints et à ses élus de se prononcer pour leur candidat à la primaire de la droite. De sorte que M. César et d'autres, rideau, n'ont pas prononcé un seul mot sur qui ils soutenaient pendant une primaire. Là, Didier Mouly, lui, c'est même pas une primaire, donc c'est pour le futur des gens de la vie, il dit « Mais moi, je vais voter pour Mme Fabre ». Alors, je ne sais pas ce qui va se passer. Mais il m'étonnerait fort quand même que César et ses amis restent quoi, c'est-à-dire restent muets, pour utiliser un vocabulaire plus...
Quoi,
hein,
quoi
reste un vocabulaire plus compréhensible de la part des auditeurs. Il faut qu'ils réagissent. Ils ne peuvent pas rester muets.
Intéressant à suivre. Une petite parenthèse quand même concernant Marie-Hélène Fabre. J'aimerais pouvoir l'entendre à ce même micro pour qu'elle nous donne des explications. Je l'ai invitée il y a un certain nombre de semaines. Jusqu'ici, je n'ai pas de réponse. Alors, je tiens à le signaler pour nos auditeurs. Il n'est pas question pour nous de boycotter qui que ce soit. J'ai invité Marie-Hélène Fabre et si elle répond positivement, bien entendu, elle viendra s'expliquer à ce même micro. Alors, suite du sommaire, le transfert des ports de plaisance au Grand Narbonne.
Oui.
Là, tu as fait un billet là-dessus, oui, ça t'inspire aussi d'ailleurs.
Oui, parce que là, dans mon blog, je ne relate pas que ce genre de petit événement politicien. Je parle aussi, je traite de sujets fond, un peu plus sérieux et qui vont au fond. La communauté d'agglomération de Narbonne a reçu la compétence au titre de la compétence économique et non pas touristique des zones portuaires. Des zones portuaires, et donc, mais ça depuis quelque temps, hein, c'est pas récent. Ça date depuis le début de l'année 2016. Les élus communautaires de Narbonne savent que les zones portuaires de la Narbonnaise ne sont plus de compétences communales, mais de compétences communautaires. Et le préfet, par délégation de son sous-préfet, a écrit en fin d'année aux élus communautaires en leur disant « Mais bon, vous n'avez pas pris d'initiative. Moi, je vous rappelle quand même, et je vous dis surtout, qu'à partir du 1er janvier, ça c'était quelques semaines avant la fin du mois de décembre, à partir du 1er janvier, messieurs les conseillers communautaires et messieurs les maires de Gruissan, de Fleury, de Narbonne-Plage et de Leucate, vos zones portuaires, elles ne sont plus de votre compétence, elles sont de la compétence de l'agglo. » Et là, silence radio, si je puis dire.
Oui, oui, ben effectivement.
D'autant que les maires de Narbonne et de Leucate avaient délibéré peu de temps avant, enfin, en disant « Je ne transférerai jamais mon port de plaisance et ma zone d'activité à l'agglo. »
Bon, là, c'était pas du silence, c'était clair.
Oui, sauf que ce sont des délibérations qui n'ont aucun sens, il n'y a aucune portée juridique. C'est pas un conseil municipal qui va, s'opposer à une loi. Bon, la loi, elle s'impose à tout le monde, en fait, loi, décret d'application, circulaire, tout ce qu'on voudra.
En l'occurrence, la loi dite nôtre.
Voilà, la loi dite réforme territoriale. Donc, on est dans une situation aujourd'hui où, depuis le mois de début janvier, les zones d'activité portuaire, dont les ports de plaisance, sont de compétence agglo, mais des zones d'activité portuaire et des ports qui sont toujours gérées, directement ou indirectement, bon, peu importe, on ne va pas rentrer dans une explication trop juridique, par les communes. C'est une situation qui ne pourra pas durer très longtemps. Parce qu'un jour ou l'autre, il faudra bien que le payeur public ou celui qui est mandaté par le préfet et le trésorier général, prennent sa responsabilité et disent « Bon, ben, est-ce que je fais les salaires ou pas maintenant puisque, et à qui je les fais ?» Donc je ne peux pas les faire à la commune, puisque bon, la commune n'est plus compétente, donc je vais faire à l'agglo. Donc c'est une situation qui ne peut pas durer très longtemps. Et moi, ce qui m'a surpris dans cette affaire-là, je le dis très tranquillement en fait devant Didier, il s'expliquera ensuite, c'est que, alors même cette compétence, ce transfert est connu depuis de longs mois, personne n'est pris l'initiative, à tout le moins, tout simplement de faire un état des lieux, de regarder ce qui était transférable ou pas, en fait, les limitations des zones, les VRD, enfin, quel mode de gestion, comment on fait, etc. D'autant que, si je suis bien informé, mais je pense l'être, là, le cabinet conseil qui avait travaillé pour le compte de l'agglo sur le transfert de compétences tourisme et non pas économique, avait dans son schéma général et dans un schéma, disons, optimal, du point de vue du cabinet en question, prévu effectivement l'organisation à travers une société publique locale de l'ensemble des ports de plaisance dont je viens de parler. Donc voilà un dossier qui aujourd'hui est dans un état, je dirais, un peu trouble, pour faire référence à des eaux qui ne le sont peut-être pas, mais qui devra quand même très rapidement, peut-être que Didier Coudreau nous pourra nous en dire quelques mots, trouver sa résolution de manière à éviter ce genre de situation compromettante pour tout le monde.
Alors tout de suite, Didier, un mot.
Oui. Je vais essayer de vous éclairer et d'être le plus clair possible. Donc Michel, vous avez raison, il y a une nouvelle organisation territoriale du 7 août 2015 qui nous oblige à nous adapter. Il y a cette loi NOTRe qui est confiée aux interco, de nouvelles compétences au 1er janvier 2017, nous y sommes. La promotion touristique et le développement économique, notamment les ports. Alors c'est vrai que la promotion touristique, c'est un dossier que nous avons anticipé depuis pratiquement une année. Aujourd'hui, nous avons, vous le savez, vous en avez parlé ici aussi, nous avons un office de tourisme communautaire sous une forme juridique, donc un EPIC, offrant la possibilité d'un large spectre de prérogatives, donc qui peut être évolutif en fonction des transferts, notamment de la politique touristique, mais plus que ça aussi, puisque maintenant on parle de, du développement économique et des ports. Il faut savoir que nous avons reçu donc début de l'année un courrier de Monsieur le Préfet nous signalant que nos ports étaient transférés à partir du 1er janvier 2017, donc effectivement les 5 ports de plaisance que vous venez de dire, donc entre Le Cat, Narbonne, Narbonne-Plage, pardon, Curissant avec les deux ports et Saint-Pierre. Et c'est là où donc la complexité donc de l'anticipation ne s'est pas faite et le courrier qui avait été relancé par le ministre Jean-Michel Baillet, c'est un courrier que je rappelle, c'était au mois de novembre, donc effectivement entre novembre, décembre, donc l'organisation du tourisme et du développement économique des zones portuaires, notamment des ports, c'est un peu compliqué, en sachant que également, dans le cadre de d'autres régions, notamment donc d'autres préfets, l'interprétation n'est pas forcément la même. Je prends un exemple sur le Gros-du-Roi, Port Camargue, qui est le plus grand port, n'est pas transféré à la communauté de communes.
Alors, des exceptions,
et c'est là où,
il y en a. Oui.
Et c'est là où on n'est pas dans la jurisprudence. On est sur uniquement l'organisation. Nous, aujourd'hui, donc moi, Gruissant, je suis très très clair, j'en ai parlé au président Jacques Bascou, nous, on est donc favorable à ce que le port de Gruissant, les deux ports, hein, puisqu'il y a le port Barberousse, soit transféré dans le cadre de l'OTC, qui s'occuperait de la politique touristique, également de l'attractivité des ports de plaisance. Chose un peu plus compliquée avec les autres élus, que je dois rencontrer avec, bien sûr, l'accord de Jacques Bascou, le maire, je pense notamment le maire de Narbonne, Didier Mouly, Michel Py et Guy Sier, pour qu'on puisse se mettre en harmonisation avec le courrier du préfet qui nous stipule donc qu'au 1er janvier, les ports doivent être transférés.
Voilà, bon, donc affaire à suivre, c'est le moins qu'on puisse dire. Et on marque une deuxième pause. Merci Didier Codorniou.